Pas d'affolement. Nous voilà. Pas d'affolement.
Nous voilà.
Pas d'affolement.
Nous voilà.
Bonjour et bienvenue à vous, fidèles auditeurs de Radio Entre-deux-Mers, pour la 36e émission de Pas d'affolement, nous voilà, en compagnie de Alain, Jean-Louis, Ossine, Béatrice, Hélène, Marion, Valérie, Antoine, également Valérie et Francis à la technique et moi-même Philippe. Aujourd'hui, nous avons comme invité William Poutheis, retraité du métier de pompier et reconverti en maître chien. Alors, monsieur Poutheis, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment êtes-vous devenu maître chien ?
D'abord, j'ai effectué le métier de sapeur-pompier pendant 39 ans. Et avec l'animal, j'ai voulu vivre quelque chose de très intense. Et avec le chien, vraiment, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose chez les pompiers. Et ça a débuté comme ça.
Quelle formation avez-vous faite pour devenir maître chien chez les pompiers ?
La formation, à l'époque, débutait en interne au niveau du 10-33, service départemental des secours et de la Gironde. Et après, on suivait une formation dans les Alpes, à l'école de Briançon. Et si on réussissait, on revenait maître chien. Voilà, de recherche de personnes ensevelies. À savoir que, si vous voulez, au fil des années, la formation a évolué. Et plutôt que d'aller être formé au niveau des Alpes, par une structure, les SDIS 33 ont décidé qu'on pouvait se former en interne au niveau des SDIS avec des agréments au niveau des formations.
C'est du secours alors ?
Tout à fait, les chiens, ce sont des chiens de recherche et de sauvetage.
Quel est le rôle du maître chien pendant que le chien effectue les recherches ?
Mais le rôle du maître chien, si vous voulez, c'est d'être l'assistant du chien, d'être toujours près de lui pour voir les signaux qu'il nous envoie lorsqu'il a fait une découverte. À savoir que la formation du chien dure 2 ans. Nous achetons, on lui dit au 10, des chiots. Et quand arrive l'âge de 2 ans, il faut que le chien soit opérationnel. La durée de vie opérationnelle d'un chien est environ 8 ans.
Ah oui, c'est très intéressant. Quelle est la différence entre la recherche cynotechnique chez les pompiers et chez les gendarmes ?
La différence, si vous voulez, on peut trouver des différences, mais bon, la formation, le rapport maître-chien est sûrement le même. Nous faisons du sauvetage, nous sommes seulement engagés dans des opérations de sauvetage, alors que la gendarmerie, si vous voulez, est surtout engagée dans des opérations judiciaires.
Vous avez dit tout à l'heure SDIS. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
D'accord. Et quand le pompier prend ses congés, est-ce que le chien reste avec lui ?
Tout à fait. Au niveau du 10-33, les chiens vivent en famille. Bon, lorsque les personnels sont de garde incendie, le chien est à la caserne, en chenil, avec son maître. À savoir que la nouvelle appellation au niveau des 10-33 de la sécurité civile, on ne dit plus maître chien, on dit agent cynotechnique.
D'accord.
Y a-t-il une différence entre agent cynotechnique et maître chien ?
En fait, si vous voulez, le cynotechnique, ça veut dire, cyno, c'est le chien, et technique, si vous voulez, c'est la technique. C'est-à-dire ce sont toutes les techniques que l'on apprend au chien pour effectuer ses missions. Maître de chien, c'est une appellation gendarmerie, police ou armée. Voilà.
Et une question, combien de chiens avez-vous pendant la durée de votre carrière ?
Pendant ma carrière cynotechnique, j'ai utilisé 6 chiens.
Ah oui, okay.
À savoir que quand un chien opérationnel atteint l'âge de 5 ans, on reprend un chiot pour pouvoir assurer la continuité.
Merci William de toute cette savoir et expérience de métier. Et moi, pour continuer sur cette bonne lancée, je vais vous raconter mes vacances à Biscarrosse. Mes vacances débutent à Biscarrosse par un temps maussade. Nous partons, ma compagne et moi, entraînés par les chansons de Nostalgie. Ma compagne, à qui rien n'échappe, remarque mon regard inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ?» me dit-elle. Je lui réponds « Je crains que notre glacier soit mal en point. » Nous arrivons à Biscarrosse plage et nous nous dirigeons vers son échoppe. Celui-ci, amaigri et vieilli de 10 ans, nous accueille avec un large sourire. « Enfin, vous êtes là !» Il nous gratifie de 2 superbes glaces à la vanille italienne et est tellement content qu'il ne nous fait pas payer. Les jours défilent, nous allons à l'océan. Ma forme n'est pas olympique, mais grâce à un footing au bord de l'océan et quelques séries de pompes, le tonus revient. Comme tous les ans, nous faisons un petit tour au casino. Nous investissons 20 euros et comme de bien entendu, nous perdons. En revenant à la voiture, une surprise nous attend. Des dizaines de femmes nous ont reconnus, réclament des autographes. Les questions fusent. Comment gère-t-on le stress? Il est comment Francis en vrai? Après ces événements, les vacances se poursuivent en enchaînant resto sur resto, ce qui fait diminuer le volume de mon portefeuille. Mais en contrepartie, il faut augmenter l'ampleur de mon tour de taille. Les vacances sont alors bientôt terminées. Quand une bonne surprise, les derniers jours m'attend. Le préfet vient me remettre une médaille récompensant les hautes personnalités qui ont passé leurs vacances à Biscarrosse. Et moi, assis sur le livre d'or de la ville, aux côtés de Jacques Chaban-Delmas et d'Alain Juppé. Finalement heureux, je reprends le chemin des studios. Voilà, et alors on va continuer avec Florian Ribeil, qui fait la fête de la musique en particulier, un reportage de Sylviane et moi-même. Fait de la musique dans Florent Ribeil, qui fait du piano.
Tout à fait, ben bonjour, hein. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli ce soir. J'ai passé une très bonne soirée pour l'instant.
C'est un bel envol ibérique ce que vous faites.
Tout à fait, ben écoutez, merci. C'est que un lieu de toute façon en plus qui se prête à ce genre de musique, je pense.
Vous faites souvent de la fête de la musique ou c'est la première?
Alors écoutez, j'en fais pas forcément beaucoup, mais là c'est la première que je fais ici. Dans ce cadre, donc c'était très intéressant de pouvoir mettre le piano dans cette petite chapelle.
Et alors depuis combien de temps vous faites du piano?
J'en fais depuis tout petit, mais en fait je suis à la base, j'ai une formation d'organiste.
Ah oui.
D'organiste d'église, donc j'ai été formé au conservatoire de Bordeaux.
Oui.
Et là je suis, on va dire, plus revenu sur le piano il y a maintenant 6 ou 7 ans à peu près.
Alors pourquoi l'Espagne? Vous êtes spécialisé sur l'Espagne, vous êtes d'origine?
Alors, c'est une musique qui me touche déjà beaucoup, j'aime beaucoup la musique d'Albéniz et j'ai des origines espagnoles également.
Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message pour cette musique?
Écoutez, je dirais le mélange de couleurs et l'idée de voyage également.
Vous avez été en Espagne déjà?
Oui, j'ai été très régulièrement en Espagne, je parle correctement espagnol, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement, surtout la musique d'Albéniz, dans laquelle on peut voir aussi une grande influence de la musique française de la fin du 19e et du tout début du 20e siècle.
Alors vous travaillez en solo, tout seul?
En solo, oui. Après, je fais petit à petit d'autres projets, mais ces temps-ci, essentiellement en solo. Donc là, j'ai toute une tournée avec les scènes d'été, avec une dite date avec les scènes d'été, et après d'autres dates à venir, donc surtout l'été, et ensuite après dans le début d'année, fin 2018 et début 2019.
Merci de votre disponibilité. Merci.
Je vous en prie et bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.
Comment vous avez fait pour monter la danse?
Bon, pour monter la danse, vous savez, depuis mon enfance, je danse. Je suis né dedans, donc déjà, ça a été déjà prêt dans ma tête de faire ces préparations avec le groupe. Donc c'est pour ça, c'était très 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 rapide parce qu'il y a du travail, mais c'était vraiment sympa, les élèves étaient patients, ils m'écoutent, tu vois, je les fais chanter.
Ça vous prend beaucoup de temps?
Oui, ça nous a pris, actuellement ça nous a pris 8 mois de travail. Mais déjà 8 mois avec eux, je trouve ça vraiment chouette. C'est très 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 bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Beaucoup de travail pour faire ça? Vous faites depuis un an la danse?
Au moins que ça, cela fait que 2 ou 3 séances que j'ai découvert ce groupe merveilleux qui m'a vraiment donné une envie folle de continuer dans ce rythme, dans cette ambiance, dans cette complicité avec les gens. Je trouve ça formidable.
Ça vous a boosté?
Oui, très boosté, oui.
Tout le monde s'y est mis, j'ai vu.
Oui, ben c'est le but un peu, parce que la musique, finalement, c'est ça qui fait tout oublier, puis c'est ça qui réunit aussi les gens, et que les gens partagent un moment de bonheur à un moment donné, et puis que le public aussi puisse aussi se retrouver avec nous un instant.
Un moment dérivatif pour tout le monde.
Voilà, c'est exactement le mot.
Merci, madame.
Je vous en prie.
En tout cas, bravo.
Merci.
Et vous, monsieur, alors qu'est-ce que vous faites ici à danse?
Ah, moi, je fais du djembé.
Depuis longtemps?
Depuis tout petit, mais j'ai arrêté. Et ensuite, histoire de participer avec tout le monde, voilà, je me suis remis.
Et alors là, tout le monde a participé?
Voilà, oui.
Et beaucoup de travail pour faire ça?
Faut avoir l'envie et être passionné aussi. Je pense que ça marche ensemble.
Merci. Et vous, alors?
Bonjour, je m'appelle Mathilde. Moi, j'aime beaucoup danser. Ça permet de me dépenser, d'extérioriser toutes les choses qui de chasser les angoisses et tout ça, on va dire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui libère l'esprit de la danse.
C'est à la fois thérapeutique, alors?
Ça peut être thérapeutique, mais c'est aussi prendre plaisir à être sur la scène et tout ça, en fait. Ben, sur ce, je fais aussi du théâtre avec Anne-Sophie. Et ça permet de m'ouvrir un peu au monde. Parce qu'à l'hôpital, on est souvent soumis à des contraintes et tout ça, à des règles de vie un peu au quotidien. Mais après, des règlements. Mais après ça permet d'évacuer un peu c'est un moment pour soi et pour le public.
Un moment dérivatif.
Voilà.
Nathalie, il faut vous interroger.
Pourquoi
Alors cet atelier dure depuis un an, je crois.
Oui, exactement, oui, depuis à peu près un an.
Et il a réussi, tout le monde a participé?
Oui, enfin tout le monde a participé, chacun a participé. Il y a plusieurs unités qui ont participé, le public aussi.
Un peu.
Un peu beaucoup.
Oui, et donc c'est une réussite. Hein.
Voilà, exactement.
Merci Nathalie. Et vous, Embrick, qu'est-ce que vous pensez de votre prestation?
Bien, comme il faut. Très bien.
Beaucoup de travail aussi?
Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et c'était bien, ça m'a plu. Et puis l'année prochaine, on va faire une tantam encore. Voilà. Merci pour tout le monde.
Donc, Rossini, l'année prochaine?
Je referai du tantam l'année prochaine.
Ah oui, très bien, merci. Une réussite, cette fête de la musique?
Mais il semblerait que ça se passe très bien. On n'est qu'aux 2/3. Hein, on n'est que deux tiers puisqu'on a eu le concert à la chapelle qui était superbe. Hein, c'était vraiment plein d'émotions. Et tout le monde était attentif. C'est surtout ça qui mettait pour nous un enjeu. Et puis là, on vient d'avoir un petit quart d'heure de danse africaine. Et maintenant, de la musique de tous les mondes à 20h30. Voilà.
Nous allons goûter avec plaisir.
Je suis ravi que vous soyez là. Merci.
Merci. Bonjour messieurs. Alors c'était une réussite ce concert, ce petit...
Oui, c'était bien, c'était un très très bon moment partagé avec les danseurs, les musiciens, les chorégraphes, le public. On a passé un super moment de fête de musique et merci beaucoup à tout le monde d'avoir fait le déplacement.
Et beaucoup de travail. Hein,
oui, beaucoup de travail, un travail de toute l'année. On se fait plaisir à venir ici tous les deux mercredis à donner des cours de... les ateliers de danse, de percussion et on concrétise avec trois spectacles au marché de Cadillac, fête de la musique et puis il y aura un autre spectacle à la rentrée.
Merci pour ce beau moment.
Merci à vous, c'est grâce à vous.
Oh ben, grâce à tout le monde.
Merci,
au revoir.
Alors on continue avec la sortie à l'éco-musée de Marquez présentée par Sylviane.
Nous sommes allés nous promener dans la ville de Sabre. Nous avons pris le petit train pour monter à Marquez. Nous avons visité la maison de sorcière, la maison de maître. Nous avons vu le berger avec ses deux chiens et ses moutons. On a regardé la ruche où les abeilles faisaient leur miel avant. Le boulanger faisait son pain au feu de bois. Certaines personnes ont acheté du pain et des gâteaux. Nous sommes allés ensuite manger au restaurant. Nous avons mangé du pâté, ensuite du confit de canard avec des pommes de terre. Comme apéro, du jus de pomme, au dessert du gâteau et un café. Ensuite, nous avons pris le petit train pour redescendre, puis nous sommes rentrés.
Maintenant, nous allons faire une petite musique douce et pour faire une pause, avec une proposition de Sylviane, Indochine, troisième sexe.
Don't quel danger y a-t-il à pratiquer cette profession pour l'homme et pour le chien ?
Pardon, je n'ai pas compris.
Quel danger y a-t-il à pratiquer cette profession pour l'homme et pour le chien ?
À savoir que bon, les dangers qu'encourent l'homme et le chien sur les opérations sont diverses. On peut se blesser, on peut appréhender une opération avec difficulté. Maintenant, il faut savoir que systématiquement, lorsque nous nous engageons sur les opérations de recherche, que ce soit recherche de personnes ensevelies ou recherche de personnes égarées, les chantiers doivent être sécurisés. Normalement, on ne doit pas être engagé s'il y a du danger. À savoir qu'il y a des personnels qui sont utilisés pour sécuriser les chantiers. Et normalement, bien que le risque zéro n'existe pas, on ne doit pas encourir de danger.
Êtes-vous intervenu sur des théâtres opérationnels ?
Oui, bien entendu, sur le territoire national. Bon, moi, personnellement, en 1997, j'étais engagé sur l'explosion des silos à la Semabla. Et... le 21 septembre 2001, sur l'opération AZF à Toulouse, avec mes chiens. Voilà. Après, il y a eu d'autres opérations. On fait évidemment beaucoup plus de personnes, de recherche de personnes égarées que d'explosions ou d'effondrements d'immeubles, de glissements de terrain, heureusement.
Votre chien et vous, avez-vous été récompensés ?
Oui, on a eu des récompenses, des médailles, des lettres de félicitations. Et la récompense surtout que peut avoir l'équipe cytotechnique, c'est la reconnaissance du public et de nos employeurs.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec William Poutet et nous continuons cette émission en lui posant d'autres questions. Moi, par exemple, je voudrais savoir, dans votre métier, que fait-on en rechercher aux chiens ?
Pour ce qui est de la recherche de personnes ensevelies, il faut savoir que comme nous prenons des chiots à 2 mois, ce sont des chiots, et nous l'habituons à rechercher un jouet qu'il va avoir pour lui quasiment toute sa vie. Soit ça peut être une balle, soit ça peut être un petit chiffon, ou ça peut être aussi une récompense alimentaire. Donc le chien, on dit qu'il est créancé là-dessus, et systématiquement, il recherche son jouet. Et au bout du jouet, en fait, il y a une pseudo-victime. Voilà, et c'est comme ça que se fait le transfert.
À quel âge commence l'éducation et l'entraînement du chien ?
Mais nous, comme nous prenons des chiots à deux mois, ils commencent à travailler. Voilà, ils sont sélectionnés, ce sont des chiens qui sont sélectionnés dans des élevages de travail. Bien que nous ayons réussi à faire naître des chiens avec nos produits, ce qui renforce encore plus la relation, puisque quand on les voit naître à la maison et qu'on les voit grandir et évoluer, bon, le rapport est d'autant plus fort.
Comment sont-ils nourris ?
Ils sont nourris quasi exclusivement avec des croquettes par commodité, parce que lorsque l'on se déplace à l'extérieur, qu'on n'est pas à la maison ou à la caserne, si on est détaché plusieurs jours sur des opérations, il faut qu'on ait de la nourriture qui soit transportable et facilement utilisable.
Justement, qui assume les frais nécessaires à l'entretien du chien et à sa bonne santé?
Voilà, alors l'entretien du chien au niveau du SDIS 33, c'est le service départemental d'incendie et de secours qui assure la nourriture et les frais vétérinaires.
Quel nom vous avez peut-être un chien en particulier?
Non, j'ai eu 6 chiens de travail. En fait, j'ai eu 8 chiens de race berger allemand. J'ai trouvé chez chacun de ces chiens des qualités. Je n'ai pas trouvé de défauts. Je me suis toujours attaché à mes chiens, que ce soit les uns ou les autres.
Merci. Jean-Louis, je pense que Jean-Louis a quelque chose à nous dire sur Guyliane.
Oui, le slam de Guyliane.
Slam sans titre. Avec ou sans bagage, ma vie est un voyage. De long en large, je scrute le paysage. Je vois autant de beauté que de carnage. Toutes ces images juxtaposées les unes sur les autres font que, parti de ma banlieue, je rêve de survoler 1000 lieues. Ma vie est un assemblage tel un puzzle, fait par un homme, seul, moi. Aujourd'hui à l'UMD, ensuite au CHSS de Cadillac, à défaut d'avancer dans l'espace, j'avance dans mon esprit, qui lui avance dans le temps. C'est ça qui fait la différence entre des individus qui pensent différemment. Ainsi le voyage, l'amour et le dépaysement peuvent s'effectuer dans un lieu clos, nos pensées peuvent s'évader et être palpables. D'où l'intérêt d'avoir des souvenirs qui peuvent être visités et revisités à l'infini. Je suis né à 8000 km d'ici, en Afrique. La Centrafrique, c'est mon pays. En 1981, j'aménageais à Paris et ceci avec toute ma famille. Parti de ma petite capitale Bangui, j'ai suivi une scolarité sans souci. En classe, j'étais rarement puni, car j'avais l'ambition d'être instruit. Chez nous, du côté des garçons, nous avons tous été circoncis. C'était une des conditions gravées dans nos mœurs. J'ai très peu côtoyé mes grands-parents. Quand je les ai quittés, je n'avais que 4 ans. Aucun souvenir précis de mon enfance ne m'a marqué, sauf en apparence. Quelques années plus tard, une certaine nostalgie paradoxale à mon nouveau mode de vie à la française, différent du mode de vie à l'africaine, m'a déraciné, jusqu'à mon insuccès. J'ai voyagé en Espagne, en Grèce, en Italie, en Suisse, sillonné de long en large et en travers les quatre coins de la France. Aujourd'hui, seules mes cicatrices témoignent de mon vécu. Sans oublier que je suis en psychiatrie. Je souffre même si je ne subis pas la famine qui sévit sur mon pays, la Centrafrique. Je me prénomme Guilin, j'ai 41 ans. Ce que j'aime, c'est partager des festins avec mes amis qui sont dans le besoin. Comme beaucoup, je suis parti de rien. Comme certains, je me suis issu du continent africain. Je puise mes écrits dans le déroulement de ma vie et décris pas toujours avec envie. Mais jour après jour, nuit après nuit, mon histoire personnelle se définit comme un besoin universel. Il peut être blond, brun ou roux. D'où qu'il vienne, il attend que tourne la roue. Sur un terrain sec ou dans la boue, il ne tendra pas la joue. Ne se mettra pas à genoux, restera debout malgré le fait qu'on le traite de fou. Un jour, je partirai pour un pays lointain où je n'aurai comme voisin que de dangereux félins. Je posséderai dans ma piscine de formidables animaux domestiques, genre de beaux et magnifiques dauphins. J'ai grandi dans des lieux urbains où vraiment ça craint pour se procurer du pain ou prendre son bain. Cela nécessite beaucoup de débrouillardise, de chance. Parfois même, il faut faire de grosses bêtises. On appelle ça communément faire du bise. Sans me retourner, j'irai jusqu'au bout du monde. Avec mon ombre vagabonde, je profiterai de chaque seconde en prenant une inspiration profonde. Même si le tonnerre gronde autour du monde, la diversité abonde de fumeurs de cigarettes brunes et blondes. Et quand je reviendrai des rêves plein la tête, je tenterai de poursuivre ma quête, telle une comète autour de la planète, jusqu'à ce que ma vie s'arrête. Comme un poète rêvant dans sa couette à sa prochaine cigarette, c'est tout bête que d'être poète.
Mais actuellement, je me sens très concernée par votre œuvre. Parce que je donne moi-même aux chiens aveugles tous les ans. Donc pour moi, c'est très précieux. Les chiens aveugles sont des chiens dressés à cette fin, très précise pour les hommes, leur spécialité. Par exemple, Saint-Bernard, pour retrouver des skieurs imprudents, surpris par une avalanche. Les chiens guides aveugles sont aussi les seuls autorisés dans les commerces. Et grâce à leur flair, des chiens spécialisés détectent la présence de drogue.
Merci. Je tiens à rappeler que nous sommes en compagnie de William Poutet, qui est pompier et maître chien. Maintenant, William, comment récompense-t-on le chien et avec quoi ?
Le chien, on le récompense par l'amitié qu'on lui porte déjà. Sur les opérations ou les formations, comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise sa balle, son chiffon ou une récompense alimentaire. Mais je crois que la plus forte des récompenses, c'est le rapport qu'on peut avoir avec lui. C'est-à-dire une vraie complicité qui peut nous amener sur des opérations qui soient compliqué, qui soit dur pour lui et pour nous.
Merci. Je vais bientôt vous quitter. Je vous laisse avec un témoignage de Huguette. C'est le premier épisode de la vie d'Huguette. Je vous laisse le découvrir.
Quand j'étais petite, j'aimais prendre le bus. J'aimais aussi quand les marcassins traversaient sur la petite route de la campagne pour aller rejoindre la forêt. J'aimais manger des raisins. On en piquait aux voisins. Faire la fofolle dans les bottes de paille. J'adorais ma caravane et la purée des entrecôtes qu'on mangeait tous les dimanches. J'aimais faire des bouquets de jonquilles. J'aimais dépouiller les châtaignes. J'aimais mes chiens, mes moutons, mes chats, mes poulets. On ne les tuait pas. Aussi, une anecdote, c'est que j'avais un poney, il s'appelait Polo, et à chaque fois que je montais dessus, il voulait pas, il me faisait tomber dans les fossés. Il retournait toujours chez lui, toujours. Donc du coup, on a dû reprendre l'argent qu'on avait donné et on a dû lui laisser parce qu'il aimait son maître. J'aimais mon coq à 7 heures, il me réveillait. J'aimais bien faire du roller. J'aimais faire du patin à glace. J'adorais mes frères. J'aimais ma maman par-dessus tout. Et mon père qui, malgré tout, donnait du sens à ma vie et du punch. Je regrette rien de mon enfance. Sauf qu'après, on m'a volé mon adolescence.
Voilà, on a écouté Christine. Et maintenant, on va écouter dans un témoignage de Huguette. Sur sa vie, le premier épisode de la vie d'Huguette, on va l'écouter, cet épisode. Allez, Huguette.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, Eric Falleret, la radio. Je suis en compagnie de Simon et de Guillaume, ainsi que l'infirmière qui nous permet de rencontrer notre chère Huguette, à qui je vais poser différentes questions pour savoir la présenter, savoir qui elle est et ce qu'elle a fait. Huguette, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous êtes née ?
Le 28 mars 1927. C'était mon père qui s'occupait beaucoup de moi, parce que j'avais perdu ma mère à 2 ans et demi. Alors, après, il s'est retrouvé avec moi, qui avait 2 ans et demi, tout seul, avec ses deux beaux-parents, qui étaient effondrés par la mort de leur fille, et puis son beau-frère, le frère aîné de ma mère, qui alors, bon, eux, ils étaient 3 enfants, lui, c'était le second, mais il était alcoolique. Alors, c'était une charge plus qu'une aide.
À la mort de votre maman, vous avez fait rentrer une dame qui s'appelle Madame Casa, une nounou.
Oui. Alors, j'avais encore, quand ma maman est morte, j'avais encore ma grand-mère. Bon, mais elle est morte 4 ans après, parce qu'elle n'était pas bien âgée, elle avait 70 ou 75 ans. Mais à ce moment-là, 75 ans, on était vieux. Tandis que moi, je me vois à 91, bon, je suis vieille, c'est sûr. Mais enfin, on ne voyait pas de gens de 91 ans autrefois, très 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 peu. Tandis que maintenant, ici à Créon, on est plusieurs à être près de la... Le monsieur qui habite la chambre à côté, il paraît, il aura 100 ans cette année. Mmh. Alors, vous voyez, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Mmh. Bon, alors, donc, je me suis retrouvée avec ma grand-mère, qui est morte 4 ans après. Donc, j'avais 6 ans. Alors là, je me rappelle mieux la mort de ma mère, moi je ne m'en souviens pas. Je ne me suis même pas rendu compte que je ne l'avais plus ni rien, j'étais trop petite. Mais à 6 ans, ma grand-mère, je m'en suis rendu compte quand même. Bon, alors mon père n'avait plus d'autre solution que de prendre quelqu'un pour lui faire marcher la maison, parce qu'il fallait faire à manger, il fallait faire le ménage, s'occuper. Mon grand-père, le pauvre, il n'était pas paralysé, mais presque, il marchait presque pas. Il se levait, il fallait l'aider, il fallait l'habiller, et il se mettait dans le fauteuil, puis il attendait midi, il faisait rien. Mais il avait, pareil, comme ma grand-mère, dans les 75 ans. Bon, alors voilà. Et puis, alors il a trouvé cette dame, Madame Cassatt, oui. C-A-2-S-A-T, ça s'écrivait. Alors, elle arrivait vraiment de la... Là, c'était la campagne aussi. Mais on était quand même à 25 km de Créon. Tandis qu'elle, elle était du côté de Brann, par là-bas. C'était beaucoup plus loin. Et alors, elle était habillée comme on était habillés autrefois, tout en noir, avec un tableau... Je la vois encore avec même les petits plis qu'elle avait sur le corsage. Et puis, elle avait un chignon, mais qu'on ne voyait pas parce qu'elle avait un bonnet. Et ce bonnet, c'était très compliqué. Il était attaché avec des petits nœuds partout. Enfin, il y en avait 3 ou 4 petits nœuds et noirs. Et puis, un pan, un bout.
Les bonnets dont elle portait, c'est girondin.
Eh bien, c'était des bonnets girondins, oui, mais que je n'en ai pas revu depuis. Après elle, j'ai rencontré jamais de vieille dame qui avait des bonnets comme ça. Elle avait gardé le bonnet qu'elle avait quand elle était en âge mûr, quoi. Je pense que ça. Après, ça a disparu. Ça a disparu avec le patois. Le patois, on a eu tort de le laisser disparaître. Mais il aurait disparu fatalement parce que les enfants qui vont à l'école, il ne faut pas non plus qu'ils apprennent en même temps le patois. Et ça fait trop.
Pas d'affolement. Nous voilà.
Alors, mon père, il était. Comment on dit ? On disait à ce moment-là, voyageur de commerce. Il vendait du linge de maison, mais en allant chez les gens. Alors, il avait une voiture. Alors, c'était extraordinaire à ce moment-là d'avoir une voiture. Il n'y en avait pas beaucoup. Et il était obligé de s'absenter assez souvent s'il voulait faire gagner sa vie. Gagner sa vie et celle de ses beaux-parents et la mienne. Et celle de mon oncle alcoolique, parce que lui, il ne gagnait pas sa vie, mais non, en plus, il laissait des notes dans les bistrots assez importantes et il fallait les payer. Ah là là, c'est drôle comme on avait la vie difficile. Et puis, bien, on vivait quand même. Hein. Mais enfin, moi, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte de tous les soucis qu'il devait avoir, mon père. Et ça ne devait pas être bien. Voilà, alors il ne s'est pas remarié. Que 17 ans après, j'en avais 19, il s'est remarié en 46. J'en avais 19. Et avec une dame, enfin une demoiselle, elle était célibataire, qui avait 40 ans passé. Et un an après, ils ont eu un fils. J'avais donc 20 ans quand il est né. Alors j'ai un petit frère qui a maintenant 71 ans quand même. Mais enfin, c'est toujours mon petit frère qui est né quand j'avais 20 ans. Voilà.
La cavité découverte dans les pyramides de Khéops. La première pyramide.
L'actualité culturelle.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. À Langon, au Carme. Depuis le 6 septembre et jusqu'au 29 novembre, exposition de photos intitulée « Ses mémoires » de Nathalie Gascoin. Samedi 6 octobre à 20h30, spectacle festif intitulé « Des étoiles et des idiots » avec les fouteurs de joie. Vendredi 12 octobre à 20h30, concert du Carmen Jazz. Jeudi 18 octobre à 20h30, musique Albénis par Florian Haribé. Jusqu'au 20 octobre, exposition de peinture du collectif Trace et Cartes. Dimanche 21 octobre à 15h, ciné-conférence intitulée Malaisie, mosaïque des tropiques avec connaissance du monde et l'association des Amis des Carmes. Vendredi 26 octobre à 21h, concert Starman, The French Bowie Tribute de TDK Prod. Mardi 30 octobre à 10h, vidéo projection organisée par les bibliothèques intercommunales du Sud Gironde. Et du 31 octobre au 1er décembre, exposition de portraits photos et sculptés par François Lacoste et Alain Vergne. À Paillet sur l'île Raymond. Dimanche 14 octobre de 14h à 17h, lecture de paysage intitulée Un dessin de nature avec Florian Bousquet, animateur d'espace naturel. À Portets, à La Forge, samedi 6 octobre à 20h30, concert intitulé The Big Walkie Show avec les Walkies. Et vendredi 12 octobre à 20h30, comédie de Jean Del et Gérard Cibléras, intitulé Le Béret de la Tortue par le Théâtre des Salinières. À Sainte-Croix-du-Mont, place de l'Église, dimanche 14 octobre, vide-grenier avec buvette et petite restauration sur place. À Riance, au foyer Rionnet, samedi 6 et dimanche octobre, 7 octobre, braderie organisée par le CCAS de Riance. à Lormont, au Rocher de Palmer, mercredi 3 octobre, représentation de l'ensemble des ateliers de Cadillac, centre hospitalier, hôpital de jour et entr'acte le GEM, et exposition des tableaux sur le thème mythologie. À Bordeaux, à la DRAC, mercredi 10 octobre à 18h, vernissage de l'exposition de Christophe Goussard. À Cadillac, depuis le début septembre, de la nouveauté chez les Passerelles, un feuillet gratuit d'information et de poésie intitulé « Le feuillet des quatre saisons » est déjà dans les lieux de passage et de rencontre, comme les mairies, bibliothèques, médiathèques, librairies, etc., pour tous les amoureux de la région. Du 1er octobre et jusqu'au 4 novembre, au château de Cadillac, exposition intitulée « Détenue » de Bettina Reims. Et, dimanche 7 octobre, balade vendange, randonnée au cœur des vignes en passant par Ions et La Roque. Quant au Cinélux, il est encore en travaux.
Présentation d'enregistrement sur les pyramides de Khéops fait par moi-même. La cavité découverte dans les pyramides de Khéops. Les premières pyramides ont été construites environ 2600 ans avant Jésus-Christ. Elles avaient pour but d'accueillir le tombeau des pharaons et avaient dans un premier temps une forme d'escalier afin de permettre aux pharaons de s'élever vers le royaume divin. En effet, les croyances de cette époque appuyaient l'idée qu'à leur mort, les pharaons devenaient des dieux. Plus le rang du défunt était élevé, plus le tombeau était vaste et richement orné. Bijoux, mobilier, vêtements, ce qui permettait aux pharaons d'emporter avec eux toutes leurs richesses. Khéops doit sa renommée à la construction de la plus grande des trois pyramides de Gizeh. Considérée dans l'Antiquité comme l'une des sept merveilles du monde, il lui fallait une trentaine d'années pour construire cette pyramide. Le sarcophage de Khéops n'a encore jamais été découvert, il ne reste de lui qu'une statuette de petite taille. L'hypothèse de l'existence de cette chambre funéraire dans la pyramide de Khéops fut posée d'où la création de la mission du scan pyramide. Cette mission regroupe des scientifiques égyptiens, canadiens, français et japonais grâce à des particules cosmiques, les muons, qui permettent de nous informer sur la densité des espaces à travers les murs. Les chercheurs scannent pyramides ont découvert une cavité dans une pyramide de Khéops. Cette information a été divulguée en novembre 2017. Afin de ne pas endommager les pyramides, un chercheur robotique américain élabore actuellement un robot miniature porteur d'une caméra qui pourrait être introduit dans les cavités découvertes au travers d'un mini-tunnel et filmera l'intérieur de la cavité. À ce jour, aucune information n'est transmise au sujet de l'avancée des recherches. Ce qui vous a été présenté est le fruit des nombreuses recherches menées par le groupe d'actualité du Centre hospitalier de Cadillac.
Et maintenant, merci, les infos et la page culturelle. À Langon, au Carme.
Voilà, merci Antoine pour cette pyramide. Et on va passer, comme tous les mois, au résultat du rugby avec notre inévitable monsieur rugby, Ossine.
Dans le résultat de rugby, top 14. Bègles bat Clermont 23 à 19. Grenoble bat Perpignan 31 à 22. La Rochelle bat Lyon 30 à 13. Racing 92 bat Cas 27 à 11. Toulon bat Agen 33 à 3. Montpellier a écrasé Toulouse 66 à 15. Pau a perdu contre Stade Français 13 à 25.
Le
classement. Premier Clermont, deuxième Stade Français, troisième Toulouse, quatrième Racing, cinquième Castres, sixième La Rochelle, septième Lyon, huitième Montpellier, neuvième Bègles-Bordeaux, 10e Pau, 11e Toulon, 12e Agen, 13e Grenoble, 14e Perpignan.
Merci aussi. Alors, nous revenons dans les studios avec Monsieur Portais, qui était un ancien retraité des pompiers et qui a été également retraité des maîtres chiens. Monsieur Portais, les chiens, justement, est-ce que une question sur les chiens, est-ce qu'ils doivent être stérilisés, ces chiens?
Non, pas forcément. Nous n'avons pas eu de chiens stérilisés. Peut-être les femelles. Maintenant, si on ne veut pas stériliser les femelles, il faut savoir que deux fois dans l'année, elles ont des chaleurs et on ne peut pas les utiliser. Autrement, ça met la pagaille dans la section. Donc, au niveau des mâles, on ne stérilise pas parce qu'on peut être amené à faire un peu de reproduction. Mais ça ne gêne à rien que le chien soit entier ou la chienne, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Sauf les chaleurs pour la chienne.
Antoine.
Comment récompense-t-on le chien et avec quoi ?
Bon, le chien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise des balles, des petits chiffons qu'on appelle boudin. Également on peut récompenser avec de la nourriture. Maintenant, je crois que c'est le plus important dans la relation chien et conducteur cynotechnique, c'est l'affection que l'on a pour le chien, quoi. Si le chien il sent que l'on est bien avec lui, il est toujours prêt à partir. Et c'est ça la récompense. La récompense, c'est aller au travail. Voilà, le chien il est toujours demandeur et là, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Mais surtout la relation maître-chien.
Évidemment. Et quelle est la durée de carrière d'un chien chez les pompiers environ ?
Un chien est opérationnel au 10-33, au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, à l'âge de 2 ans en moyenne, et jusqu'à l'âge de 8 ans. Après, s'il est encore en bon état, il peut durer encore jusqu'à 9 ans, mais après, on pense à la retraite. On pense à renouveler l'équipe.
Quel devient le chien lorsqu'il prend sa retraite ?
Eh bien, écoutez, comme moi, il reste à la maison.
Il regarde la télé.
Et voilà, il regarde la télé, il reste sur le canapé, mais il reste en famille, on les garde, les chiens. Voilà. Malheureusement, il y en a qui disparaissent avant d'arriver à l'âge de la retraite.
Ça, c'est comme tout.
Voilà.
Et alors, est-ce qu'il existe des odeurs qui peuvent tromper le chien pendant ses recherches ? Quelquefois, il n'est pas infaillible, son flair.
Oui, tout à fait. Le chien, il peut être amené à commettre des erreurs, mais c'est très, très rare. Celui qui commet les erreurs, c'est souvent le conducteur cynotechnique, le maître. Ouais. Le maître, parce qu'on n'a pas bien observé le chien, on n'a pas compris le message que le chien nous a envoyé, mais c'est très rare que le chien se trompe.
Et alors, ça demande. Pour l'homme, c'est peut-être un sport, mais le chien, ça demande un certain entraînement physique.
Tout à fait, oui. Moi, je le vois, puisque j'ai atteint l'âge de la retraite depuis 3 ans. Mes dernières années de travail avec le chien, c'était quand même.
Du sport.
Oui, c'était un peu compliqué, quoi. Je récupérais moins vite que quand j'étais beaucoup plus jeune. Que, si vous voulez, chaque fois qu'on reprend un chien, c'est un chien jeune. Lui, il est jeune, mais nous, on vieillit toujours un peu plus. Voilà, donc c'est un peu plus difficile.
Il y a renouvellement.
Voilà.
Et alors...
Mais ça demande une condition physique quand même assez costaud, quoi. Il faut être solide.
Les deux.
Voilà, le chien et le maître.
Voilà. Alors, une question. Comment peut-on connaître, alors l'équivalence, c'est une question qu'on vous pose souvent, l'équivalence de l'âge du chien en âge humain ?
Bon, écoutez, là, je n'ai pas de certitude. On dit qu'un an pour le chien, enfin, un an pour le maître, c'est 7 ans pour le chien.
Oui.
Maintenant,
De 7 ans, c'est il y a 50 ans, quoi.
Il suffit d'aller voir chez le vétérinaire, il y a un tableau, il vous indique les âges, mais tant que le chien est bien physiquement et en bonne santé, on continue de travailler.
Oui, puis c'est pas une question d'âge, ça, en fait.
Non. C'est comme les personnes. Vous savez, vous avez des jeunes qui sont vieux et des vieux qui sont jeunes.
Oui, c'est possible. Alors, je vois que vous avez donné une brochure. Et là, je vois que vous avez été partout, à Saint-Symphorien, à Saint-Macaire.
C'est au début de la brochure, tout ce qui concerne l'activité cynotechnique.
Voilà. Il y a de tout comme chien.
Ah oui, on a du berger allemand, berger belge. Là, ils ont acheté des labradors dernièrement. Il y a du border collie.
Malinois, non, si.
Oui, mais c'est un berger belge. Si vous êtes dans l'espèce berger belge, vous avez le malinois, le Gwendal et le terveren. Mais c'est toujours du berger belge. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de malinois.
Y a-t-il des parcours spécifiques pour entraîner les chiens, selon leur âge ?
Pendant l'apprentissage, si vous voulez, on a des parcours appropriés à l'âge du chien. Mais après, le chien, il faut qu'il aille partout. Il faut qu'il passe partout. Maintenant, à savoir que là où le chien, l'homme aussi doit passer. Donc ça met quand même des limites. Mais si vous voulez, quand vous avez des chantiers de décombres ou des explosions, le chien, c'est très compliqué, c'est très dur, mais il doit passer. Voilà, pour détecter les odeurs qui sont sous les décombres, qui correspondent aux personnes ensevelies. Quoi.
Donc il y a des parcours sportifs.
Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Mais il ne faut pas confondre le sport canin et l'activité opérationnelle. Voilà, l'activité opérationnelle, c'est un vrai métier. Ce dont on parle là, c'est un vrai métier.
Je pensais plutôt au sport militaire. Oui. Quoi.
Militaire, mais vous savez, les militaires, c'est comme ce que nous faisons, nous. Hein.
Oui.
Il faut qu'ils passent partout. Voilà. Donc ça demande des capacités physiques importantes pour le chien et pour le maître.
Et alors, on n'a pas parlé de ça, mais la drogue, côté de drogue, vous
en coûtez... Ça ne concerne pas les pompiers.
Ah oui, ça oui.
C'est une affaire de police, de gendarmerie, mais nous, on ne travaille pas sur ces produits.
Il est multiple, le travail du chien.
Ah oui, oui, oui.
Il peut tout faire.
Le chien, il peut détecter de l'explosif, de la drogue, on dit de l'organique ou du chimique. Voilà, mais nous, on travaille uniquement sur l'humain. Voilà.
Combien de jours, pour quelqu'un qui est enseveli, mettez-vous de temps à retrouver la personne ?
Mais ça, tout dépend de la composition des matériaux qui ont enseveli les personnes. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le pont à Gênes qui s'est effondré.
Oui, c'est récent.
Bon, 2-3 jours après, ils peuvent retrouver des personnes encore vivantes. On appelle ça des lieux de survie. Oui. Où, si vous voulez, les personnes ne sont pas écrasées, ne sont pas décédées, elles sont encore vivantes. Et là, on peut encore espérer retrouver des personnes avec l'utilisation du chien.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez à ZDF en 2001.
Oui, le 21 septembre, oui.
Oui, c'était peu à peu les événements du 11 septembre.
Tout à fait, tout à fait.
Oui, j'en rappelle.
Ah, c'était une grosse opération. On y restait. On partait avec un collègue, c'est une anecdote, mais on partait avec un collègue dans les Alpes à une cérémonie pour le départ à la retraite d'un CRS qui nous a formés pendant des années, c'est M. Rostolan. Une demi-heure avant l'explosion, on était au péage de Toulouse.
Ah oui,
et l'explosion venait d'avoir lieu quelques minutes avant, quoi. Ah, donc, oui. Ça fait que nous, on n'est pas parti dans les Alpes, on est resté à Toulouse.
Ah, oui, j'en doute.
Et on a travaillé avec les Toulousains. Voilà.
Avec quelle autre structure travaillez-vous ?
Les unités de la sécurité civile, les marins-pompiers de Marseille et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et après, tous les SDIS, si vous voulez, au niveau national. Le SDIS, ce sont les services départementaux. Et chaque département a un service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Et les services départementaux qui ont décidé d'avoir des équipes cynotechniques, on travaille avec eux. On a des échanges en permanence avec eux. Voilà.
C'est vous qui faites le bal de pompiers ?
Non, c'est pas moi. Ce sont des collègues, si vous voulez. Le 13 juillet, effectivement, dans la région, il y a des bals organisés par les sapeurs-pompiers pour fêter. C'est un peu la fête des sapeurs-pompiers, voilà.
Et oui, c'est un beau métier. Enfin, c'est une belle reconversion après le métier de pompier. Et pourquoi comment ça vous est venu, cette idée de vous impliquer dans le chien alors que vous pouviez rester...
Mais il y a une période professionnelle où on a envie vraiment... Bon, on est
de
à croiser des chemins, voilà. Moi, j'ai toujours eu des chiens dans ma famille, à la maison. Et j'avais un chien, il avait des aptitudes. Et j'ai eu l'opportunité de me lancer dans la spécialité. Et là, bon, quand j'ai eu cette opportunité-là, là, j'ai foncé. Et je l'ai faite pendant 28 ans et je ne l'ai jamais regretté.
Oui, une passion en même temps.
Tout à fait.
Beau parcours.
Voilà.
Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'un chien peut être amusant ?
Il peut être embêtant aussi.
Oui.
Non,
je pense qu'il peut être amusant.
Amusant, tout dépend comment on conçoit le jeu.
Oui, le
chien, il est toujours prêt à jouer, si c'est une façon de voir les choses. Mais bon, moi, j'ai un vieux chien maintenant, qui a 11 ans, c'est mon dernier chien. Si je l'écoutais, je serais toujours avec lui, à m'amuser avec lui, à jouer avec sa balle, à jouer avec son boudin, enfin voilà, ça, on peut appeler ça du jeu. Mais c'est une occupation pour lui. Parce que lui, ça fait 3 ans qu'il a arrêté le travail, mais bon, quelque part, ça lui manque, quoi. Moi, ça ne me manque pas, mais à lui, ça lui manque.
Mmh. Non, je posais cette question parce que je n'ai pas d'animaux, mais...
Oui, oui, oui.
Et alors, le côté affectif du chien, vous en avez toujours eu des chiens chez
voilà,
vous.
Voilà, oui. À l'âge de 20 ans, mon épouse, on a eu notre premier chien, et depuis, j'ai 64 ans, on a toujours eu des chiens. Voilà.
Avez-vous une autre passion que les chiens ?
C'est difficile à dire. Pas comme le chien. À part la famille. La famille, bien entendu. Oui. Mais après, bon, il y a des activités maintenant. Bon, j'aime la brocante. Voilà, j'aime refaire un peu des vieux meubles, bricoler. Mais bon, après, me promener, j'arrive de la montagne, j'aime beaucoup la montagne. Voilà. Mais toujours avec le chien. Les chiens ne nous ont jamais quittés.
Ah oui.
Antoine.
Je voulais savoir, comment vous apprivoisez les chiens?
On ne les apprivoise pas. Ils sont socialement, ils sont
domestiques. Oui.
Voilà, ce sont des animaux domestiques, oui. Voilà. Le chien a toujours accompagné l'homme. Oui. Donc chez nous, ça s'est fait naturellement, quoi. Il y a pas eu. On parle de dressage. Pour moi, il n'est pas question de dressage.
Non,
on dresse un fauve.
D'éduquer.
Mais voilà, éducation, formation, apprentissage. Voilà.
Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de William Poutet. Qu'il est maître chien chez les pompiers.
Je l'étais.
Il était à la retraite.
Voilà. À savoir que si vous voulez d'autres éléments Donc actuellement, il y a 10 équipes opérationnelles sur le département de la Gironde qui sont réparties sur le département de la Gironde. Il y a 3 niveaux de responsabilité, SIN 1, SIN 2, SIN 3. Voilà, SIN 1, c'est le maître chien, c'est l'équipier cynotechnique. Le SIN 2, c'est le cadre, c'est le chef d'unité cynotechnique. Et le SIN 3, c'est le conseiller technique départemental. Voilà, ces personnels-là sont sur la Gironde, à savoir qu'il y a en permanence, 24 heures sur 24, un cadre cynotechnique contactable par le 18.
Pour les urgences.
Voilà.
Ouais. Pour les urgences, oui.
Et je voulais savoir combien de chiens vous avez.
J'ai eu 8 chiens, dont 6 chiens opérationnels.
En tout cas, on vous remercie, Monsieur Poutet. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'émission
C'était un plaisir. Je suis très content d'avoir été votre invité.
Voilà, ça sera pour une autre fois.
Mais tout à fait.
Avec plaisir, vous êtes très sympathique. Comme beaucoup de nos intervieweurs, ils sont toujours très sympathiques.
C'était avec plaisir.
Merci d'avoir été notre invité.
Merci bien.
Alors, vous pouvez nous retrouver sur podcast, en tout cas tous les jeudis de 14h à 15h. Rendez-vous peut-être le mercredi 31 à l'Aréole. Je dis peut-être, si on ne sait pas. Sinon, rendez-vous le jeudi fin du mois. Merci. Je vous rappelle l'émission 98.4. Merci. Au mois d'octobre.
Para